La géographie, c'est l'histoire dans l'espace et l'histoire, c'est la géographie dans le temps.
Le témoin de ce vendredi, Antoine de Bec.
Du foin, des bottes d'une taille raisonnable et une bonne poignée de coin de dinde. Avec ça, tes pieds arrivent à Paris frais comme des roses. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Si les gazettes, ils étaient pas si chers, hein, eh bien rien ne vaut le papier. Ah, vaille, tout ça, c'est des blagues. Le meilleur, c'est une bonne chandelle, là, bien ramollie. Le principal, c'est de se graisser là entre les doigts de pied. Puis après, on file comme si on avait des œufs.
La marche peut mettre les pieds en sang, mais pour nous autres, contemporains qui sommes écorchés par la vie sociale d'aujourd'hui, elle peut aussi être un baume. Quand on marche, les mille liens qui vous enserrent se libèrent. La marche déclenche la pensée. Pour Jean-Jacques Rousseau, le sentier, c'était l'équivalent du cabinet de travail. Et Victor Hugo s'émerveillait. À chaque pas qu'on fait, il vous vient une idée. Le philosophe qui traverse les obstacles et force des passages, il est dans le cheminement. Le poète qui fait des vers, il compte en pied. Pour l'historien, la marche, pareillement, est un excellent moyen de percevoir le temps au travail dans l'espace. Suivre notre témoin Antoine de Bec quand il pratique ce qu'il appelle l'histoire marchée, c'est être fidèle à la lettre, à la vocation de la marche de l'histoire. Et au moment où commence l'Euro de foot, c'est une façon de se mettre en mouvement, mais seul ou en petit groupe et sans les contraintes de toutes sortes qui accompagnent le sport.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Antoine de Bec, bonjour.
Bonjour.
Alors, dans votre production d'historien protéiforme, trois livres sur combien de dizaines avez-vous publié ?
Une quarantaine.
que nous allons considérer à la façon, vous savez, d'un palimpseste en superposition. Une anthologie des écrivains randonneurs, c'est chez Omnibus. Un essai d'histoire marché. Votre périple le long du GR5, la traversée des Alpes, c'est chez Gallimard. Et puis, carrément, maintenant, une histoire de la marche qui vient de paraître aux éditions Perrin. Dans chacun de ces livres, une fois ou l'autre, vous racontez votre adolescence de marcheur qui vous est revenue quand vous avez déménagé l'appartement de vos parents, retrouvé vos notes de randonnée et vos chaussures.
Oui, c'est ce que j'appelle ma vie randonnée, qui est une vie d'enfance, d'adolescence. J'ai passé toutes mes vacances dans une maison que mes parents avaient dans le Vercors. Et c'est vrai que c'est une sorte de paradis de la marche et de la randonnée. Et assez vite, à partir de 13-14 ans, je me suis mis à marcher, à suivre mes parents, mais surtout à marcher tout seul, à partir tout seul dans la montagne, droit devant, en suivant plus ou moins des chemins, et surtout en notant. En notant tout, la marche s'est accompagnée assez vite d'une sorte de passion un peu graphomane qui permettait de garder une trace et puis d'être dans la nature, puisque c'était des notes très très concrètes sur ce que je pouvais rencontrer comme ruisseaux, forêts, animaux, avec s'accompagnant d'heures précises et voilà. Et donc,
si on est concret, Antoine de Bec, parlons matériel.
Ouais.
Vous avez retrouvé aussi vos premières chaussures de cuir. C'était des godillots à semelles à clous. Enfin, je ne veux pas vous renvoyer à la plus haute antiquité. Le mot godillot, d'ailleurs.
Ah bah, c'est Alexis Godillot, monsieur Godillot, qui, à Besançon, au milieu du 19e siècle, crée son entreprise de chaussures. Et puis, il va connaître la gloire parce que ça va être le chausseur de l'armée française, des armées de Napoléon III et puis de la Troisième République.
Non, vous êtes l'homme du temps des semelles pneumatiques. Mais le sac à dos était beaucoup plus lourd.
Ah oui,
à l'époque de votre adolescence.
Disons que quand j'étais adolescent, je partais un petit peu à l'aventure tout seul et sans grand chose. Mais c'est vrai que le portage dans la marche est une technique extrêmement importante et l'évolution du portage est quelque chose qui a une histoire. Ça fait partie de ce que j'ai essayé de mettre à nu, l'histoire du matériel de la randonnée. Hein.
Le sac à dos très haut. Alors, qui est utilisé maintenant, vous le comparez au sac à dos des colporteurs.
Et des contrebandiers, absolument. C'est-à-dire que les colporteurs avaient parfois 60, 70 kilos. C'est un sac à dos d'aujourd'hui, on estime qu'il doit porter maximum entre 13 et 15, 16 kilos. Il faut au-delà, ça entrave la marche. Donc les techniques des fabricants de sacs à dos ont retrouvé de façon assez naturelle les techniques des des colporteurs et surtout des contrebandiers. Ça, c'est d'ailleurs un portage qui repose essentiellement sur les reins et qui, avec des bretelles et un sac à dos très en hauteur et effilé, c'est plus du tout le sac à dos cloche rond qu'avaient les randonneurs de nos grands-parents. Hein. C'est un autre sac à dos, ce qui permet aussi les colporteurs et les contrebandiers avaient besoin de couper les lanières s'ils étaient tout d'un coup surpris par le gabelou. Et donc, voilà, il y a là une histoire qui est intéressante parce qu'il y a comme une sorte de réinvention d'une tradition, hein, la tradition des colporteurs et des contrebandiers qui se retrouvent repris par le matériel moderne.
Allez, on est prêts ?
Non mais attendez, j'arrive pas à fermer mon sac. Tiens Louis, prends mon pull.
Pourquoi moi ?
Bah parce qu'il te reste de la place. Bah
justement, c'est calculé.
Quoi calculer ? T'as rien pris ?
Bah non.
Bah tu parles d'un calcul.
Non mais je connais mes limites, hein. Si mon sac est trop lourd, j'y arriverai jamais.
Donc tu veux pas prendre mon pull ?
Ah non.
Ah bah bonjour la solidarité. Bon bah prends l'appareil photo au moins.
Ok, mais uniquement parce que c'est un objet d'usage collectif. Hein.
Bon bah écoutez, moi j'arrive pas à le fermer, alors je fais ça, je rabats le couvercle, les toques, on n'en parle plus. Hein Eric ?
Ok, d'accord. Bon écoutez, on va essayer de démarrer en commençant doucement. Hein.
Merci.
De marcher régulièrement. N'essayez surtout pas d'imiter les autres.
Hein ? Non, 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 si quelqu'un prend du retard, c'est pas un problème, on l'attendra. On n'est pas ici pour faire une compétition ou je ne sais quoi, on est ici pour profiter de la nature. D'accord ?
Un petit truc pour les bottines.
Vous attaquez bien le sol avec votre talon. Vous déroulez le pied et vous poussez avec la pointe. Contrairement au coureur qui à chaque foulée décolle, le marcheur, lui, il adhère. Il reste en contact avec le sol.
On marche, quoi.
Hein ?
Oui.
Au fond, on peut dire que la marche à pied n'est qu'une succession de chutes rattrapées et de déséquilibres compensés.
Il faut trouver son rythme propre qui n'est pas nécessairement celui du chef de groupe des randonneurs. Vous qui êtes historien du cinéma, vous avez reconnu le film de Philippe Harel. Le mot randonneur d'ailleurs.
Alors le mot randonneur, il apparaît finalement assez tardivement quand on fait une histoire de la marche. Hein. C'est un mot qui est très lié à ce qu'on pourrait appeler les pionniers de la randonnée, hein, qui se met en place dans les années 20, dans les années 30.
Mais il y a une distinction à ce moment-là, par exemple au sein du club alpin français, vous la racontez très bien, avec les grimpeurs et avec les ascensionnistes.
Oui, c'est vrai que c'est les randonneurs à leur origine hein, sont réunis au club alpin français. Pendant une bonne partie du 19e siècle, il n'y a pas vraiment de différence entre ceux qui font des excursions, parce qu'on parle à cette époque plus d'excursionnistes et les ascensionnistes, ceux qui conquièrent les grandes parois des Alpes. Et justement, à partir du moment où l'alpinisme prend son autonomie, où quelqu'un comme Whymper va conquérir toutes les grandes parois, les grands sommets alpins, les excursionnistes vont aussi, de leur côté, prendre leur autonomie. Ils vont se séparer du club alpin français. C'est une séparation qui est à la fois, technique, mais aussi presque idéologique. Hein. Il y a quelque chose de vraiment... c'est un autre état d'esprit, la randonnée, l'excursion. Il ne s'agit pas de conquérir un sommet, mais plutôt de marcher au col, hein, dans l'état d'esprit alpin. Et c'est quelque chose aussi qui est beaucoup plus démocratique, évidemment.
1928, puisqu'on parle de cette scission des années 20, le club des compagnons, qui est animé par un gratte-papier du sous-sol de la Banque de France, qui aime prendre l'air l'été.
Jean Loiseau, oui, Jean Loiseau est un personnage assez étonnant évidemment j'ai découvert en travaillant sur cette histoire des randonneurs qui passe beaucoup par ces clubs. Hein, ces clubs, alors on parle à l'époque de campeurs randonneurs, hein, puisque cette autonomie, elle va aussi avec le camping hein, qui se développe énormément. Et Jean Loiseau est un de ces pionniers qui est fasciné par d'une part par les Sioux, qui sont un peuple marcheur hein, et qui un peuple nomade et qui ont aussi toute une culture du signe, du balisage des sentiers. Et puis d'autre part la grande formation de Loiseau, c'est le scoutisme. Voilà, encadrer des jeunes gens qui et les mettre en route, les mettre en marche sur les chemins. Et donc Loiseau va fonder comme ça toute une série d'associations, de clubs de randonneurs. Avec un projet à la fois très pédagogique et aussi une une sorte de, je dirais, de mise en forme de la marche. On parlait du rythme de la marche. Voilà, l'oiseau avait, c'est les mots que Benoît Poelvoorde emploie dans le film, les randonneurs, ils sont directement issus du guide de ce qui est un petit peu la Bible des randonneurs, c'est-à-dire les textes de l'oiseau sur la marche dans les années 20-30.
Vos livres sur la marche, l'histoire de la marche, le dernier chez Perrin, raconte aussi le parcours d'autres personnages, Marc de Seyssel, plus aristocratique, qui défendait le marquage en rouge et blanc des GR, Roger Beaumont. Tous ces gens-là sont à l'origine de l'efflorescence des sentiers de grande randonnée, dont vous dites qu'en 1947, ils couvraient 200 km, et aujourd'hui, près de 300 000.
Absolument, c'est vraiment une histoire. On a là quelque chose qui est le triomphe de la randonnée, qui se prépare. Ces pionniers comme l'oiseau, comme Beaumont, ont longtemps marché, non pas tout seuls, mais dans des groupes petits. On les appelait les bataillons des gros mollets. C'était souvent issus du scoutisme ou alors du Touring Club de France ou encore des auberges de jeunesse. Et donc à un moment, ils se sont réunis en un groupe pour tracer les chemins, pour baliser les chemins. Donc on a appelé ça le Comité National des Sentiers de Grande Randonnée, qui se crée effectivement en 1947. Et donc sous l'influence de l'oiseau, ils choisissent cette couleur qui est devenue la couleur fétiche, emblème comme ça des GR, le rouge et le blanc. Et à partir de ce moment-là, voilà, les baliseurs, qui sont évidemment des bénévoles, hein, vont s'investir dans ce qui est véritablement une mission et vont en quelques décennies comme ça attirer une foule qui est assez considérable. On considère qu'aujourd'hui il y a près de 10 millions de marcheurs qui empruntent de façon évidemment irrégulière les sentiers de grande et
oui,
de petite randonnée.
Mais vous notez, Antoine Debecq, que s'il y a élargissement social, pratique familiale, il y a aussi un certain vieillissement, parce que les plus jeunes peuvent trouver un certain ennui à ces cheminements et préférer, je ne sais pas moi, les ultra-trails. Alors vous n'êtes pas du tout du genre ultra-trail. Alors l'ultra-trail, j'explique, alors il y a celui de Chamonix, il y en a un que moi je vais défendre parce que c'est dans ma montagne préférée, Belledonne, ça a lieu à la fin du mois d'août, depuis 2013, et la première fois que ça a eu lieu, il y a eu 2/3 d'abandon sur le parcours de 140
km. C'est pareil à l'ultra-trail. L'ultra-trail, ça veut dire courir en montagne, en fait. C'est une épreuve sportive, une épreuve d'endurance et une épreuve de souffrance, parce que le corps n'est pas évidemment pas fait pour grimper en courant des pentes comme celle du Mont Blanc, hein, tout simplement. Et donc moi ce qui me gêne dans l'ultra trail, c'est de considérer la nature et la montagne encore plus comme un vulgaire stade d'athlétisme. Par exemple, aujourd'hui quand on va à Chamonix, c'est aussi un marché qui s'est, pourtant ça concerne quelques milliers de personnes parce qu'il faut vraiment être dans une condition physique, mais en même temps c'est un marché très très prescripteur. Et donc les boutiques de montagne de Chamonix, et il y en a près de 80, hein, c'est vraiment la Mecque de la montagne, sont
vous dites le Deauville des Alpes aussi.
Voilà, le Deauville des Alpes sont emplis de ce matériel hyper léger, hyper sophistiqué des trailers, hein, des ultra trailers. Voilà,
bon, moi je ce qui gêne notre programmateur et réalisateur,
oui,
Jacques Sigal, c'est pas ça, c'est plutôt le côté trop ascétique, lui il préfère, vous voyez, les banquettes de voitures.
Moi, je voudrais m'offrir une grosse voiture, rouge et verte avec des ailes chromées, pour me pavaner dans la nature.
Moi, je préfère les marchepieds.
Une bagnole pleine de trucs mécaniques, une tirette pour le whisky glacé, un bouton pour le beefsteak pommes frites.
Et moi je préfère les marchés.
On irait faire du 300 à l'heure sur des routes champêtres et parfumées. Paris-Lyon en un peu plus d'une heure.
Et moi je préfère les marchés.
Ma voiture vient de faire des merveilles. J'ai séduit la plus jolie poupée. On va vivre une nuit sans pareil.
Oh, ça vaut pour les marchepieds.
On oh. s'adore, ça y est, c'est pour la vie. Ma chérie, puis-je vous proposer de passer une heure à la mairie.
Mais à la réflexion, je crois que je préfère la marche à pied.
Oh, je te l'avais bien dit.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Antoine Debecq publie chez Perrin une histoire de la marche. Il faut que vous expliquiez à ceux qui sont réticents tout ce qu'on perd dans le voyage rapide.
Je crois qu'il y a un texte de Victor Hugo qui, alors qu'il vivait pas encore à une période du voyage rapide, mais ça lui paraissait déjà voyager en calèche, quelque chose de beaucoup trop rapide, et une sorte d'éloge qu'il fait de la muse pédestre, hein, où voilà, la marche à pied lui permet de voir en détail tout ce qui l'entoure, aussi bien la nature que les jeunes et jolis aubergistes. Voilà, il est dans une sorte de défense de la lenteur, hein, qui est le contraire évidemment de nos rythmes d'aujourd'hui, qui
ne cesse de nous... Et il lui échoit des aventures.
Absolument. C'est-à-dire que la marche est propice à la réflexion aussi bien qu'à la rencontre.
Vous avez, en 2009, pendant plus d'un mois, relié les Alpes du Nord à Nice. Et vous êtes parti au point de départ du GR5, du lac Léman, dont Valérie disait le calme du Léman lacté qui sait être bleu et sombre sous le rameur et qui est d'une pâleur intense. On va écouter un autre poète de la montagne. Non, c'est un grand géographe. Il donne sa légitimité aux recherches alpines. Il était professeur à Grenoble, petite université de province qu'il a secouée de sa poussière. Il s'appelle Raoul Blanchard.
La Savoie est la variété même. Bien que les Alpes y soient l'élément prépondérant, la province déroule à l'ouest une sorte de large vestibule en avant de la montagne jusqu'au lac de Genève et au Rhône. Elle possède aussi le charme des nappes d'eau, les rivages accueillants du Léman, la grandeur plus austère du lac du Bourget, enchâssé comme un fjord norvégien. Au-dessus de ce pays bas se dresse d'un puissant élan l'enveloppe extérieure des Alpes que nous appelons Préalpes. Dépassant rarement 2000 mètres, elles ont plus de grâce que de sauvagerie. Cette région s'adosse aux montagnes les plus hardiment dressées, l'alignement des massifs centraux. Là se hausse le géant des Alpes, le Mont Blanc. L'homme ici est écrasé par la montagne.
Vous parlez dans votre traversée des Alpes de la forte voix de Blanchard, mais vous ne l'aviez jamais entendu.
C'est vrai, c'est vrai.
Avouez,
c'est...
Antoine Debecq.
Absolument.
Alors, il obligeait ses étudiants, bon, qui étaient jeunes et qui pouvaient suivre, mais aussi certains de ses collègues, à parcourir les Alpes occidentales, mais alors en tous sens, dans des excursions. Mais alors, des excursions pédagogiques.
Absolument, des excursions géographiques, et il appelait cela comme ça. Ça faisait vraiment partie de son programme pédagogique, puisque c'était, on va dire, aujourd'hui, on dirait, c'est les travaux pratiques. Le TD des étudiants, c'était d'accompagner Raoul Blanchard dans ses excursions géographiques pour tout simplement faire l'expérience concrète, pédestre, de tout le savoir qui était en jeu à l'Institut de géographie alpine. Blanchard avait cette idée qu'on ne connaît vraiment scientifiquement que ce que l'on pratique, ce que l'on parcourt à pied. Et donc,
on l'appelle le géographe Croqueno.
Voilà, absolument.
Croqueno, puisque vous nous avez expliqué Godillot.
Après Godillot, Croqueno. Oui, c'est vrai que Blanchard a, disons, dans l'école française de géographie de Vidal de la Blache, et voilà, celui qui met en forme, en quelque sorte, la pensée et en même temps la pratique alpine à travers donc ses excursions et à travers son savoir.
La marche permet de retrouver sur les sentiers, sur les chemins, quelque chose comme des archives naturelles.
Absolument, c'est l'idée de Blanchard quand il emmène en géographe ses étudiants marcher dans le Vercors, par exemple, hein, à côté de Grenoble. Moi, j'ai voulu retrouver en quelque sorte cette idée en historien, c'est-à-dire voilà, qu'est-ce que c'est que les archives pour un historien de la marche. Alors, ça peut être évidemment des archives papier, des archives de cabinet. Ça peut être lire Blanchard, ça peut être retrouver à la Fédération version française de randonnée pédestre dans les vieilles armoires, les rapports de balisage, les missions de balisage de Marc de Seyssel. Mais c'est aussi, évidemment, marcher. Et quand on marche le long des Alpes, on rencontre ces archives vivantes, ces archives naturelles, que peuvent être des couches, des sédimentations comme ça successives, que peuvent être des bâtiments de la main humaine. Pourquoi une bergerie là? Pourquoi un chemin comme ça encadré de murets de pierre? Tout ça, ce sont des archives naturelles ou des archives fabriquées par l'homme mais dans la nature, qui appellent l'explication. Et donc, voilà, c'est ça aussi une des démarches de ce que j'appelle l'histoire marché, c'est retrouver en fait ces strates de marches successives qui s'enfoncent loin, en fait, dans l'histoire des Alpes, puisque à certains endroits de ce chemin que j'ai parcouru, donc le GR5 qui date son balisage date de 1950 à peu près, on marche en fait sur des chemins qui datent du Moyen-Âge.
Et qui sont les chemins, expliquez-vous, des militaires peut-être, des colporteurs certainement, et les contrebandiers se greffent sur les colporteurs, et les colporteurs peuvent se présenter comme des pèlerins. Quelle est la différence entre les uns et les autres? Le film La Trace de Bernard Favre, qu'il vous arrive de citer.
Voilà le colporteur, voilà le colporteur, qui va de ferme en ferme et de ferme en village, en s'écriant « Achetez-moi, la lidera, lidera, la la !»
Bonjour, mon fils.
Bonjour, mon frère.
Ah, qu'est-ce que je peux faire pour vous?
Je suis venu à vous dans l'embarras. Prêtre, moi-même, je reprends le chemin de l'Orient. Vous le voyez, à mon habit de voyage, je viens de loin. Et le chemin de nos saints évangélistes m'a mené jusqu'en cette ville d'Aoste. J'arrive chez vous démuni de tout. Et j'ai pensé que je pouvais frapper à votre porte. Frappez et on vous ouvrira, est-il écrit. Et j'ai pensé que, si vous vouliez, mon prêche pourrait toucher vos fidèles. Ma tâche est immense, voyez-vous, mais quel bonheur d'être colporteur de Dieu.
Le colporteur commerçant, il peut devenir colporteur de Dieu, il y a un glissement, c'est Richard Berry.
Richard
dans
Berry,
le film, la trace. Et il va entre la Savoie et la France. C'est très important, la frontière du Dauphiné et de la Savoie. Il y avait d'ailleurs des octrois sur les sentiers militaires, je ne savais pas. Avec des douaniers.
C'est pour ça qu'il y a à la fois des colporteurs, des contrebandiers. C'est-à-dire qu'on est dans un pays de frontières qui sont surveillées parce qu'il y a des conflits assez réguliers entre le Dauphiné qui appartient au roi de France et la Savoie, hein, qui est un royaume indépendant, le Piémont-Savoie. Donc il y a là un lieu de frontières et donc de contrôle qui fait que évidemment il y a un enjeu économique très fort puisque on a trop tendance à penser que les Alpes sont enclavés. En fait, c'est un pays de commerce et de transport et la marche est l'outil, le vecteur de ce commerce.
Avant que le roulage et le chemin de fer ne changent tout, qu'est-ce qu'on avait dans le sac du colporteur ou du contrebandier, dont on a bien compris en vous écoutant tout à l'heure, Antoine Debecq, qu'il était très en hauteur?
Alors,
qu'est-ce qu'il y avait
dans ces sacs, les grandes caravanes qui parcourent ces sentiers, ce sont essentiellement dans un sens des caravanes de sel. Hein, on transporte les sels de là où on le fabrique, c'est-à-dire vers Moutier, en Savoie, jusqu'en Italie, jusqu'en Suisse. Et on revient, à l'inverse, avec du fromage. Mais par ailleurs, le colporteur peut porter dans son sac des dizaines et des dizaines de produits différents, hein. C'est les babioles, c'est celui qui fait
la vaisselle de bois,
des tisanes, des
herbes aromatiques, voilà, cueillies en hauteur.
Et puis aussi toute une sorte de babioles religieuses, comme ça, voilà, des images saintes. Donc on est dans un pays qui est hautement commercial et qui est commercial longtemps par la marche.
Dans le dernier numéro de l'Alpe qui vient de paraître, de très belles photos de Jean-Christophe Béchet, on est du côté du GR52, sur les vieux sentiers de pierre du Mercantour qui ont été empruntés par les Juifs en 1943 parce que ces frontières rejouent souvent, et notamment pendant la dernière guerre mondiale. Maintenant, la frontière, c'est entre les zones préservées et les zones touristiques. Vous n'aimez pas, bien sûr, l'enlaidissement que provoque un certain nombre de stations dans les Alpes.
Oui, c'est quelque chose que le marcheur, tout d'un coup, découvre de façon très, très violente. Cette urbanisation, on peut pas dire autre chose, touristique de l'Alpe, à certains endroits. La marche amène à passer comme ça d'endroits extrêmement sauvages, complètement préservés, à tout d'un coup des stations touristiques. Et c'est sûr que certaines expériences... comme par exemple le franchissement du col du Palais en Vanoise, vous amène d'une vallée extrêmement sauvage au domaine skiable de Tignes, et c'est quelque chose de très 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 violent. Donc
ça aurait pu être pire encore, vous racontez les grands projets de Monsieur Michaud.
Absolument,
dans le massif de la Michaud. Vanoise, auquel vous opposez la station Village, telle que la défendait Philippe Lamour dans le Queyras.
Oui, c'est sûr que Philippe Lamour, qui a été longtemps un grand aménageur et planificateur du territoire, et de manière assez, je dirais, assez monumentale, hein, quand le Languedoc qu'il a aménagé, à la fois le Rhône et puis toutes les stations comme la Grande Motte, sont pas des exemples d'un tourisme très très écologique. Il sur le tard, quand par amour de la montagne et du Queyras à Seillac, il est devenu maire de Seillac après une catastrophe naturelle qui a fait presque recouvrir de boue l'ensemble de la commune. Il a décidé de relancer l'activité, de marquer au pays comme ça les enfants en développant un tourisme qui est essentiellement un tourisme pédestre, et donc avec un grand sentiment, une grande précaution pour l'environnement et pour tous ces gîtes qui se sont ouverts à ce moment-là chez l'habitant. Donc voilà, c'est un modèle touristique, un modèle de développement du territoire aussi, qui est complètement contradictoire avec celui de la grande planification des stations de sports d'hiver. Donc un autre modèle est possible, et il passe beaucoup par la marche, par l'éloge de la marche comme manière de découvrir la nature, de prendre une autre possession possible de la montagne.
Éloge de la marche que vous faites dans cette histoire de la marche chez Perrin, que vous avez fait d'expérience dans la traversée des Alpes. Vos carnets ont été publiés chez Gallimard. Quand même, juste une dernière question. Et si c'était la montagne qui parlait et non pas la mouche? Nous sommes des mouches, nous les hommes, qui nous promenons sur l'épiderme de l'éléphant. Si c'était la montagne qui parlait, Michelet s'était posé la question.
Moi, je pense que c'est que nous avons un regard qui est souvent un très prédateur sur la montagne ou sur la nature, et que en fait le vrai regard, c'est celui de la montagne, et en tout cas moi, l'expérience que j'ai faite, c'est le regard des animaux, hein. C'est les animaux qui on a l'impression que les animaux vous regardent, en même temps les animaux sont complètement dans un autre monde et presque à la fois très sensible et insensible à la présence humaine, et c'est une expérience qui remet en cause complètement, je trouve, la personnalité, l'identité de chacun, d'aller marcher au milieu d'une nature qui n'est pas hostile, d'une faune qui n'est pas hostile, mais qui est indifférente à l'homme.
Merci à vous, Antoine Debecq. Cette émission a été préparée par Franck Olivard, avec à la technique Sandrine Laurent, la réalisation Jacques Sigal.
Et merci à vous, Jean Lebrun. On vous retrouve dès lundi prochain pour une nouvelle semaine de la Marche de l'Histoire. Cette émission est bien entendu disponible en réécoute et en podcast sur le site de France Inter, www.franceinter.fr.